Bonjour à tous. La voie diplomatique reste ouverte dans la crise ukrainienne, tout en maintenant une pression sur Moscou. Plusieurs centaines de militaires français prêts à être déployés en Roumanie. Confirmation sur France Inter ce matin de Florence Parly, la ministre des Armées. Et les États-Unis annoncent l'envoi de soldats en Europe de l'Est. Invité de ce journal, Michel Goya, spécialiste des questions de défense. Un policier connu pour violence conjugale recherché après la découverte du corps sans vie de sa compagne hier soir dans un appartement à Paris. L'homme serait armé. Une enquête a été ouverte. Ariane Grissel, dans un instant. Yves Saint-Laurent à l'honneur. 6 musées parisiens exposent les œuvres qui ont inspiré les créations du couturier. Et en tennis, la victoire d'Ashleigh Barty devant son public en finale de l'Open d'Australie. La météo, pluie sur le nord-est et petit soleil au sud-est. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 13h20, Secret d'Info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, une plongée au cœur de l'organisation des passeurs de migrants, qu'ils soient kurdes, vietnamiens ou roumains, nous verrons comment ils exploitent la misère humaine en exigeant des sommes exorbitantes.
Jacques Monin, après ce journal.
France Inter.
Une enquête ouverte par le parquet de Paris pour homicide sur concubin. Une femme d'une trentaine d'années a été retrouvée morte dans la baignoire de son appartement dans le 19e arrondissement de Paris. Le compagnon de la victime, un policier âgé également d'une trentaine d'années, est recherché. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
L'homme, connu pour des faits de violence conjugale, serait armé.
Oui, son arme ne se trouve en tout cas ni dans les locaux de la police du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis où il était affecté, ni dans son logement du 19e arrondissement de Paris. Hier après-midi, ce policier de 32 ans ne se présente pas au moment de sa prise de poste. Des collègues sont donc envoyés chez lui. L'homme est connu comme étant fragile psychologiquement. Face à l'absence de réponse, les fonctionnaires enfoncent la porte et découvrent sa compagne morte dans la salle de bain. Pas de précision à ce stade sur la nature de ses blessures. L'appartement est en grand désordre et donc aucune trace de ce policier. Un avis de recherche est émis vers 22h. Un policier qui a par le passé effectivement été condamné pour des violences conjugales sur son ancienne petite amie. C'était en 2019. Il avait alors été contraint de suivre un stage de sensibilisation. Une autopsie de la victime doit avoir lieu cet après-midi afin d'essayer de déterminer les causes précises de sa mort.
Ariane Grissel, merci. Par ailleurs, concernant les violences conjugales, les autorités judiciaires devront systématiquement avertir les victimes de la sortie de prison de leur conjoint violent. C'est un nouveau décret du gouvernement qui entre en vigueur mardi prochain. Et on en vient à la crise en Ukraine. L'armée française se met donc à la disposition de l'OTAN. Plusieurs centaines de militaires français sont prêts à être déployés en Roumanie. Les soldats français sont en phase de préparation pour se déployer dans le cadre de l'OTAN. Emmanuel Macron l'avait annoncé il y a quelques jours. La ministre des Armées, Florence Parly, l'a confirmé ce matin sur France Inter. Florence Parly s'est rendue en Roumanie avant-hier pour évoquer les modalités du déploiement des soldats français dès que les membres de l'Alliance Atlantique en feront la demande, Olivier Poujade.
La contribution française concernerait plusieurs centaines de militaires. Le déploiement se ferait dans le cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN, destinée à défendre les pays membres géographiquement exposés à une opération de l'armée russe en Ukraine. La Roumanie en fait partie. La France se propose donc, en tant que nation cadre, de coordonner le bataillon de l'Alliance dans cette zone que Florence Parly décrit comme particulièrement stratégique.
La Roumanie est un pays qui se situe au sud de l'Ukraine.
Frontalier à l'Ukraine.
Qui est frontalier à l'Ukraine, qui par ailleurs a une façade sur la mer Noire, et la mer Noire, on le sait, est une zone de tension extrême, puisque la Russie aussi a une façade sur la mer Noire, l'Ukraine a une façade sur la mer Noire, bref, nous sommes exactement à l'épicentre, si je puis dire, des tensions. Ce n'est pas destiné à contribuer à une quelconque escalade militaire, et c'est cela qui est très important. Nous sommes réaliste, nous sommes lucides et donc nous nous préparons.
Ce remue-ménage militaire, selon les Occidentaux, est destiné à concrétiser leur détermination dans les échanges diplomatiques avec Moscou. Un signal de fermeté et de dissuasion pour accompagner la Russie vers une seule voie possible dans la crise ukrainienne, celle de la désescalade.
Hier soir, le président américain Joe Biden a annoncé qu'il enverrait prochainement un petit nombre de militaires américains en Europe de l'Est et dans les pays de l'OTAN. Et puis ce matin, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, annonce qu'il se rendra en Ukraine les 7 et 8 février prochains avec son homologue allemande Annalena Baerbock. Réaction à Bucarest en Roumanie, où notamment le président Klaus Iohannis salue chaleureusement l'annonce française. Sur place à Bucarest, Paul Cosiglian.
Le message de fermeté, de détermination et d'amitié de la part des Français a été très bien perçu ici.
Pour ne citer qu'un éditorial provenant de G4 Média, la France se montre de plus en plus comme le moteur de l'Europe, un partenaire sérieux et impliqué aux côtés de la Roumanie, non seulement pour son développement économique et social, mais désormais sur le plan de sa sécurité. Fin de citation. Il faut savoir que la Roumanie a 600 km de frontière avec l'Ukraine et a été montrée du doigt par Vladimir Poutine qui demande, ni plus ni moins, le retrait total des forces de l'OTAN de son territoire. Inacceptable, a déclaré le ministre roumain des Affaires étrangères, Bogdan Aurescu. En attendant, la Roumanie commence à se préparer pour accueillir des réfugiés en cas d'agression russe. Quant à l'opinion publique, selon une étude très récente, le taux de confiance envers l'Alliance Nord-Atlantique pour défendre la Roumanie s'élève à plus de 70%. Bucarest, Paul Cosiguian, France Inter.
Invité de ce journal, Michel Goya, historien, ancien colonel de l'armée de terre, spécialiste des questions de défense, et vous avez publié aux éditions Talendier Le Temps des Guépards sur plus d'un demi-siècle d'intervention militaire française. Bonjour Michel Goya.
Bonjour.
Alors on vient d'entendre Florence Parly, comment interpréter cette annonce hier, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron sont convenus de la nécessité d'une désescalade et ce matin, la ministre des Armées confirme que plusieurs centaines de militaires vont être déployés ou seront déployés en Roumanie dans le cadre de cette désescalade. Comment on discute, mais on maintient la pression ?
Oui, c'est ce qu'on appelle escalader pour désescalader en réalité. Donc on est sur un bras de fer et on montre des signes de détermination. En réalité, c'est plutôt symbolique, hein. C'est pas un bataillon français en Roumanie qui va changer le paysage stratégique dans la région, hein, très très largement. D'autant plus que, faut pas l'oublier, l'armée russe n'est pas massée aux frontières de la Roumanie.
Michel Goya, c'est le seul moyen de pression dont dispose la France vis-à-vis de Moscou. Est-ce que c'est dissuasif selon vous ?
Alors, dissuasif, pas forcément, mais c'est. Et puis il faut bien comprendre que effectivement nos moyens de pression sont relativement limités. Si on voulait véritablement dissuader la Russie d'attaquer l'Ukraine, eh bien en réalité on irait en Ukraine. On déploierait très rapidement une force à Kharkov par exemple. Mais en réalité, d'abord on n'en a pas forcément les moyens, et surtout on n'en a pas volonté. Donc on montre des signes, on renforce le dispositif de l'OTAN. À ses frontières. Je précise que c'était déjà le cas dans les pays baltes. Hein. Vous avez aussi des forces françaises qui sont déployées en Estonie après la première grande crise en Ukraine en 2014. Donc pour l'instant, on cherche des moyens. On est dans le bras de fer diplomatique très très clairement. Et voilà, on cherche des moyens de faire pression sur la Russie, sachant que bon, en réalité, nos moyens sont limités.
Alors, Michel Goya, une autre annonce de Florence Parly ce matin sur France Inter qui concerne cette fois le Sahel et le Mali. La France, dit-elle, ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix. Et bien sûr, le premier prix auquel on pense, Michel Goya, c'est la mort le week-end dernier encore du brigadier Alexandre Martin, 53e soldat français mort au combat. Est-ce qu'il faut partir du Mali et comment ?
Nous sommes en train de partir du Mali. Depuis juin 2021, le président Macron avait déjà annoncé clairement que le dispositif de l'opération Barkhane allait se redéployer, que d'ailleurs on allait changer de nom d'opération.
Mais ce n'est pas un départ, c'est un redéploiement. C'est un redéploiement, ce n'est pas un départ. Il y aura encore environ 3 000 soldats français l'an prochain au Sahel et au Mali.
Oui, au Sahel. L'opération Barkhane n'est pas qu'au Mali. Nous avons des forces au Niger, où en réalité le centre de gravité de l'opération tend à se constituer. Nous avons des forces au Tchad également. Nous avons des forces spéciales qui sont au Burkina Faso. Mais là, ce qui se passe au Mali, c'est que nous sommes en train de nous retirer des différentes bases que nous avions pour conserver une grande base à Gao. Et cette base serait occupée par la task force, ce qu'on appelle la task force Takuba, qui est une composante de l'opération Barkhane et qui consiste à accompagner les forces maliennes au combat. Donc c'est ça le plan qui est déjà en œuvre depuis de nombreux mois et que nous poursuivons.
Alors Michel Goya, la force Takuba dont vous venez de parler a pris un sérieux coup hier avec les Danois qui viennent de quitter le Mali un peu précipitamment. Jean-Yves Le Drian hier lui-même disait que la situation au Mali est devenue intenable.
C'est-à-dire que là aussi nous sommes dans une sorte de bras de fer entre un pouvoir à Bamako qui veut donner des signes de souveraineté, donc donner des gages de souveraineté à son opinion publique, et donc qui essaie de montrer sa fermeté, qui demande à réexaminer par exemple tous les accords de ce qu'on appelle le statut des forces occupantes. C'est-à-dire que chaque fois que vous intervenez dans un pays comme le Mali, vous avez des accords qui sont signés, et donc le Mali demande à une application stricte de ces accords et parfois même leur redéfinition, ce que le Danemark n'a pas accepté et a retiré ses forces. Donc oui, c'est vrai, bien sûr, on est là aussi dans un peu dans une gesticulation politique, très clairement. On ne sait pas très bien si, en réalité, le pouvoir à Bamako veut le départ des forces françaises, alors que c'est pas non plus dans son intérêt, ou s'il veut simplement négocier, là aussi, une présence, on va dire, différente. Mais au bout du compte, oui, c'est quelque chose, c'est un engagement qui nous a coûté très cher. Vous parliez de pertes humaines qui nous coûtent aussi cher financièrement. Hein. On est un engagement à 1 milliard d'euros chaque année à peu près.
Ouais.
Et donc on est, et j'y reviens, on est en train de se redéployer pour rendre les choses plus économiques, et en se retirant très largement de la zone la plus, on va dire, la plus compliquée, qui est le Mali.
Voilà, en se redéployant, en adaptant le dispositif au Sahel. Merci Michel Goya, historien spécialiste des questions de défense. Merci à vous. L'épidémie de coronavirus et les chiffres des contaminations toujours très élevés, plus de 353 000 nouveaux cas recensés hier en France, et au regard de la circulation de l'épidémie, les pharmaciens pourront ouvrir le dimanche pour 2 mois supplémentaires, et donc jusqu'au 31 mars pour pouvoir tester et vacciner. Et puis cette information qui concerne des millions de Français pour harmoniser les règles entre les personnes vaccinées mais n'ayant pas encore reçu leur rappel et les personnes ayant été testées positives, à partir du 15 février, même schéma pour tout le monde, le certificat de rétablissement et donc le pass sanitaire ne sera valable que pour 4 mois. Par exemple, pour les personnes ayant eu le Covid après 2 doses de vaccin, elles devront recevoir un rappel dans les 4 mois pour conserver leur pass vaccinal. Et alors que l'allègement des restrictions sanitaires débute mercredi prochain, avec notamment la fin des jauges et du port du masque en extérieur, une nouvelle journée de mobilisation contre le pass vaccinal est attendue aujourd'hui un peu partout en France. Et au Canada, ce sont les routiers qui manifestent leur colère. Ils convergent depuis plusieurs jours vers la capitale, Ottawa. Ils veulent manifester devant le Parlement pour exiger le retrait de la vaccination obligatoire lorsqu'ils rentrent au pays en provenance des États-Unis. Les citoyens, lassés également des mesures sanitaires, les soutiennent depuis tout leur périple à travers le Québec. Reportage Pascal Guéricola.
Les petits bouts de doigts gelés.
Un immense merci se déploie sur la pancarte de cette jeune femme qui a bien du mal à réchauffer ses mains alors qu'il fait moins 15 degrés. Elle salue les routiers qui passent sur l'autoroute juste en dessous du pont. Les deux pieds dans la neige, un peu plus loin, une mère de 6 enfants crie son exaspération face aux mesures sanitaires. Elle n'en peut plus des limitations à recevoir des proches à la maison. Le combat des routiers s'opposant au passeport vaccinal devient le sien.
Il faut libérer le peuple à un moment donné, là. Ça suffit, là. Et les camionneurs, ils vont gagner notre cause. S'il y a quelque chose qui peut bouger, c'est eux qui vont avoir fait la différence. Puis tous ceux qui se présentent ici aujourd'hui.
À l'écart, ce chauffeur de poids lourd de la région de Québec attend de s'insérer dans le convoi en route pour Ottawa. Il est bien décidé à obtenir l'annulation des restrictions sanitaires.
On restera le temps que ça prendra, c'est pour notre liberté. De petites entreprises qui ferment. Comment de personnes font faillite? Hey, on était en seule place qu'il y avait un couvre-feu le 31 décembre. C'est quelque chose, là!
Manifestement, le mouvement des routiers dépasse largement la simple exigence d'un passeport vaccinal à la frontière. À Québec, Pascal Guéricola pour France Inter.
En France, cette initiative de solidarité, une vingtaine de soignants du CHU de Grenoble et de l'hôpital Bichat à Paris sont arrivés hier soir pour passer le week-end tout frais payé aux Arcs 2000 en Savoie, un week-end de ski pour les remercier de leur mobilisation pour faire face à la 5e vague. Et pour ces soignants, ce séjour représente une bouffée d'oxygène. Reportage Julie Munch, France Bleu Pays de Savoie.
De nuit en altitude et autant de réveils face aux montagnes dans un bel hôtel, il n'en fallait pas plus à Sylvie pour oublier un peu son quotidien très chargé. Cette technicienne de laboratoire travaille au service virologie du CHU de Grenoble.
On a tellement travaillé dur ces derniers temps que là, un petit moment de détente au milieu de toute cette panique, de tous ces changements, et ben ça fait du bien.
Jusqu'à dimanche, cette soignante va donc profiter du grand air avec son mari, comme Magali, qui travaille également à l'hôpital de Grenoble. Elle avait un grand besoin de lâcher prise.
Là, ça tombe à pic. Et ce qu'on disait, ce qu'on trouve vraiment bien, c'est comme ça s'est fait dans la semaine. Il n'y avait rien de programmé, rien de... Donc c'est assez féerique du coup.
Des soignants venus du service de réanimation de l'hôpital Bichat à Paris profitent également de ce cadeau offert par Mathieu Deschamps. Il est le directeur de l'agence Carnet des Alpes.
Toute l'oxygénation qu'on peut avoir dans la partie médicale où effectivement avec les réanimateurs, ils sont en première ligne, on fait marcher les appareils. Là, on est à 2000 mètres d'altitude. Et on prend vraiment l'oxygène.
Leur offrir ce week-end représente un budget de plus de 10 000 euros pour son entreprise, mais il souhaite déjà renouveler l'opération d'ici la fin de l'hiver.
Gilles Munch, France Bleu, pays de Savoie. Yves Saint-Laurent à l'honneur à l'occasion du 60e anniversaire de son tout premier défilé, le 29 janvier 1962. 6 musées parisiens exposent jusqu'au 16 mai prochain les œuvres qui ont inspiré les créations d'Yves Saint-Laurent. Pour l'occasion, le Louvre et le Centre Pompidou notamment dévoilent les toiles de Picasso, de Van Gogh ou encore de Mondrian qui ont inspiré Yves Saint-Laurent. Saint-Laurent, le premier couturier à avoir fait dialoguer l'art avec la mode. Madison Cox, président de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent.
C'est toujours intéressant comme un créateur, un artiste, puisse se plonger dans les divers mondes et de trouver des sources pour faire ses propres créations. Mm-hmm. Et chez Yves Saint-Laurent, il y a une multitude de sources. Il est sans arrêt depuis sa jeunesse en Algérie à piocher vraiment dans les divers aspects de la culture française d'abord. Paris était un symbole pour lui aussi, un jeune garçon en Algérie, la sophistication, l'élégance, la liberté. Et donc, c'était aussi une idée de rendre hommage à ça et aussi de célébrer ses 60 ans de création de la maison de couture Yves Saint-Laurent. Ou par exemple, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, il y a deux robes inspirées par un tableau de Bonnard. Mm-hmm. Et donc, ce tableau, Saint-Laurent lui-même a demandé à son grand collègue Gustav Zumsteg d'aller voir ce tableau et de revenir avec les tissus imprimés inspirés de ce tableau.
Madison Cox sur France Info. Le tennis avec la finale dames à l'Open d'Australie. L'Australienne Ashley Barty s'est imposée face à l'Américaine Danielle Collins, la numéro 1 mondiale. Barty a gagné en 2-7, 6-3, 7-6 et c'est le troisième titre du Grand Chelem pour Ashley Barty qui entre ainsi dans l'histoire du tennis australien. Fabrice Abdral.
Ashley Barty a mis fin à 44 ans d'attente. La numéro 1 mondiale est devenue aujourd'hui la première Australienne à s'imposer à domicile depuis la victoire de Chris O'Neill en 1978. 44 ans d'attente effacés en 1h29. C'est le temps qu'il aura fallu à Ashley Barty, âgée de 25 ans, pour prendre le dessus sur Danielle Collins. L'Australienne a mieux géré les émotions de cette finale, la troisième en grand chelem pour Ashley Barty, la toute première pour l'Américaine. Danielle Collins a été dominée en début de match, gênée par le tennis complet et tout en variation de l'Australienne. Mais dans le deuxième set, Danielle Collins a réagi, imposant sa cadence et son tennis tout en puissance. L'Américaine se détache pour mener 5 jeux à 1. Mais Ashley Barty, sans paniquer, revient au score pour pousser Danielle Collins dans un tie-break enlevé par l'Australienne, vainqueur d'un tournoi sans perdre le moindre set. Après Roland-Garros en 2019 et Wimbledon l'an passé, Ashley Barty remporte à Melbourne son troisième titre du Grand Chelem. Elle rejoint au palmarès notamment Lindsay Davenport et Jennifer Capriati. Ashley Barty peut se vanter aujourd'hui de ne jamais avoir perdu une finale, qui plus est, sur 3 surfaces différentes.
Fabrice Abgral, et on a appris ce matin la mort de l'ancien ouvreur international de rugby Guy Laporte, membre de l'équipe de France de rugby, finaliste de la première Coupe du Monde en 1987. Il avait 69 ans. Le choix culturel du week-end nous amène de Paris à Beyrouth. Jusqu'où peut-on aller pour nettoyer notre mémoire des fantômes qui la hantent? C'est la question de Bleu Nuit, le deuxième roman de Dina Abdallah, le premier livre de cette jeune auteure d'origine libanaise, Mauvaise Herbe, avait été remarqué il y a 2 ans, Ilana Mor-Youssef.
C'est un monologue, un livre à la première personne. Un homme jette les clés de son appartement. Qui il est, ce qu'il veut, de quoi il se protège, on ne le sait pas d'emblée. Dima Abdallah.
C'est un homme en proie à sa mémoire. C'est un homme qui est dans le deuil d'une femme et qui est dans le deuil d'une vie. Il tourne un peu en rond autour du Père Lachaise et même le choix du nom des rues où il passe ses journées sont des noms comme la rue du repos, la rue du retrait.
Par quoi cet homme est hanté, ce que représente ce bleu qui le submerge et le terrifie, on le saisit à mesure que surgissent les souvenirs. La sonorité d'un prénom, le parfum d'une pomme, le goût d'une pâtisserie, sens et sensibilité exacerbés.
Vous savez, ça me fait penser à cette citation de Flaubert qui disait « Je suis doté d'une sensibilité absurde. Ce qui érafle les autres me déchire. » C'est un homme qui se rappelle surtout les femmes de sa vie, sa mère, sa grand-mère, ses tantes. On chemine avec lui et on va comprendre petit à petit que c'est un enfant qui a grandi en temps de paix dans un premier temps et qui a connu le début de la guerre civile au Liban.
Le Liban s'invite et demande à exister obstinément, quand Dima Abdallah écrit, sans qu'elle l'ait forcément prémédité.
Bleu nuit de Dima Abdallah, publié aux éditions Sabine Vespizer. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Une journée souvent la tête dans les nuages pour une large moitié nord du pays, avec des pluies fines par intermittence, des précipitations parfois verglaçantes sur les hauteurs du quart nord-est. De part et d'autre de la Garonne, la grisaille évolue très lentement. Par contre, sur la Corse, autour de la Méditerranée, du Jura aux Alpes et sur l'Auvergne, le soleil va largement s'imposer. On notera un mistral et une tramontane en perte de vitesse par rapport à hier, tandis que près de la Manche, le vent d'ouest va souffler vers 60 km/h. Avec cet après-midi, 4 degrés prévus sur la Bourgogne, 5 sur le pays toulousain et le Lyonnais. Il fera 6 à Bourges et Clermont-Ferrand, 7 à Strasbourg et à Bordeaux, 8 à Biarritz. Des valeurs plus douces et souvent à deux chiffres sur le reste du pays. De l'ordre de 12 degrés prévus à Rennes, Paris, Lille et Marseille, 15 à Nice et Ajaccio. Et un maximum d'une vingtaine de degrés sur les Pyrénées orientales.
Jean-Michel Golinski de Météo France.